RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, si vous nous rejoignez à l'instant, autour de la table pour débattre de l'actualité ce matin. Zora Bitant, la fonctionnaire, le consultant Antoine Diers et le prof d'éco Frédéric Farah. On va revenir sur ce qui s'est passé, mes chères grandes gueules, du côté du nord de la France, pas très loin de chez Antoine. Jean-Luc Mélenchon, dans un premier temps, voulait donner une conférence dans une université, celle de Lille, avec Rima Hassan, cette militante franco-palestinienne très controversée qui est présente sur la liste des insoumis aux européennes. Finalement, à la demande de certains professeurs de cette faculté, la conférence a été annulée. Ensuite, il voulait donner cette conférence ailleurs, dans une salle. Et là, c'est le préfet du Nord qui a décidé d'interdire cette conférence pour trouble à l'ordre public. Jean-Luc Mélenchon dénonce un abus de pouvoir. Même le président de la République s'en mêle, puisque Emmanuel Macron a désavoué son propre préfet, on parlait d'autorité, en expliquant qu'il était pour que chacun puisse exprimer ses idées, quand bien même je combats leurs idées. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Alors, y a-t-il censure ? La liberté d'expression est-elle en danger ? On en débat dans les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
Nous connaissons les bassesses qui ont conduit la police française à faire la rafle du Veldiv sur les ordres des capitulars de l'époque qui étaient déjà couchés comme des chiens gémissants après avoir capitulé sans condition devant l'envahisseur nazi. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté.
Alors là, je crois qu'on a perdu quand même définitivement Jean-Luc Mélenchon qui vient de comparer le président de l'Université de Lille à Eichmann. Qui exécutait les ordres nazis.
Non, mais vous comprenez.
Ça va très loin.
Ouais, non, mais là, c'est un peu dangereux, là, parce que là, vous comprenez. Non, mais sans,
il met une cible en plus sur ce président.
Sérieusement. Qu'il soit interdit de meeting à l'Université de Lille, à la limite, ça peut se comprendre. Dans la salle, je n'étais pas pour. Mais là. Là, avec ce qu'il dit, vous comprenez comment vous comprenez que là, avec sa sortie qu'on a vue hier sur les réseaux, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment ce type peut-il faire des parallèles aussi monstrueux, aussi irresponsables et inconséquents, et qu'il vienne se plaindre qu'on ne lui donnerait pas la parole. Mais ce type est un artificier, c'est un fou. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, on va donner la parole à des gens comme ça, mais il y a de quoi. C'est-à-dire que c'est plus de la liberté d'expression. Ça, c'est de la propagande haineuse à viser.
Le président de l'université pourrait même porter plainte.
Ah, mais c'est terrible.
Il a été comparé à un nazi.
Non, mais là, c'est terrible. Ça veut dire que là, Mélenchon vient de prouver que c'est normal qu'on l'empêche de parler. Voilà.
Vas-y, Frédéric.
Alors, tout d'abord, première chose, il faut que les hommes politiques arrêtent avec des comparaisons foireuses de la Seconde Guerre mondiale.
On est d'accord. Le point Goldwyn, faut arrêter.
Celui-là, il est monstrueux.
On a eu, dans une version moins grave que cette version, Madame Hayé qui faisait les comparaisons en disant oui, c'est l'esprit de Munich qui revient parce qu'on n'aide pas l'Ukraine, etc. Donc elle s'en mêle les pieds, elle ne sait pas de quoi elle parle, on lui a filé cet élément de langage. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes. Alors là, on va plus loin encore dans la dinguerie. Mais il faut qu'on arrête avec ces parallèles foireux où on pense qu'en les faisant, on croit avoir de la profondeur, de la réflexion, de la connaissance historique. Stop et stop. Je pense que dans le cas Mélenchon, il aurait été beaucoup plus simple qu'effectivement, même si on n'est pas d'accord avec les positions qui sont la sienne sur la Palestine ou ailleurs, qu'il y a un espace de débat qui s'appelle une université, une salle.
Il ne fallait pas interdire.
Pour moi, il ne fallait pas interdire et qu'il fallait s'assurer juste de la sécurité, évidemment, dans ce type de situation. Et je pense que si Jean-Luc Mélenchon veut défendre sa propre cause, ce genre de comparaison, c'est catastrophique.
Ce que tu oublies de dire, Frédéric, excuse-moi, parce que c'est une parenthèse qu'il ne faut pas oublier. C'est lorsqu'ils ont annoncé ce meeting à Lille, avec l'affiche, ils ont fait disparaître Israël de la carte et c'est volontaire. Et je pense que quelque part, sans dire mot, c'était quand même une réunion militante politique contre Israël et pas du tout une réunion politique pour l'Europe.
C'est pour ça que certains profs étaient contre.
Oui, tu vois,
mais je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas prendre le risque démocratique bien mesuré d'organiser ce débat, d'interpeller démocratiquement.
Tu peux pas à chaque fois qu'ils sont traités de sionistes, sortir.
Voilà. Le problème, c'est que le conflit israélo-palestinien, c'est très difficile d'être nuancé.
Je sais.
Dans le débat.
Mais c'est ça la difficulté.
Pas beaucoup de mesures.
Mais après, il y a une autre question qui n'est pas liée à la situation de M. Mélenchon sur l'état des libertés. J'invite, et ça n'a rien à voir avec la position de M. Mélenchon, à lire, alors je sais que tout le monde s'en contrefout, le dernier rapport de la Défenseur des droits. Hein. Alors je sais que c'est une instance dont tout le monde s'encarre comme, mais vraiment l'an 40, mais la Défenseur des droits, et c'était pas par rapport à Madame, par rapport à Monsieur Mélenchon, mais exprimait qu'elle était préoccupée que certaines libertés fondamentales relatives à la réunion, l'association, d'autres libertés ou les inégalités, eh ben elle portait un témoignage d'inquiétude. Donc, mais d'accord. Ça n'a rien à voir avec Mélenchon. Mais ce que je veux dire,
Il faut faire attention. Alors, Antoine Dias, il faut peut-être distinguer deux choses. Peut-être que la fac de Lille, effectivement, on a vu quand même dans à Sciences Po, etc., des dérapages. Mais ce qui est bizarre, c'est d'interdire ensuite salle.
Premier truc, moi, j'ai été étudiant à l'université à Lille. J'en ai bouffé des réunions de gauchistes dans la fac. Et quand moi, avec mon syndicat étudiant de droite, on demandait à avoir une salle, c'était toujours non. Donc là, pour la première fois, ça leur fait bizarre aux gauchistes.
Donc c'est l'arroseur arrosé.
Première fois, les gauchistes, on leur dit non, là vous êtes quand même allé trop loin, donc on va plus pouvoir dire que c'est une conférence. Hein, c'est tellement
parce que c'est vrai que souvent les facs appartiennent un peu quand même à ces mouvements de gauche.
Ouais. Donc là, vraiment, je comprends que ça leur fasse bizarre.
Mais moi j'étais à Nanterre, effectivement.
T'es dans la capitale.
Nanterre, c'était formidable.
Non, mais les gauchistes, ils ont le droit de blacklister et de virer tout le monde, et eux, quand ça leur arrive, pourtant c'est leur marque de fabrique.
Pourquoi le préfet du Nord interdit dans une salle?
J'ai pas vu l'arrêté du préfet du Nord, mais
la salle était trop petite. Il y avait
C'est l'ordre public, c'est le maintien de l'ordre public, l'élément essentiel, etc. Et Mélenchon donne raison au préfet du Nord, puisque en fait, en hurlant comme ça, ils cherchent, et c'est leur logique, c'est leur fonds de commerce, à créer une situation pré-insurrectionnelle. Il appelle à l'insurrection contre l'intolérable, etc. Et donc, il donne raison au préfet du Nord, qui ne pourra pas, n'est pas certain de pouvoir maintenir l'ordre public sur la tenue de cette réunion. Alors, et c'est la stricte application de notre droit, l'ordre public.
Christian est avec nous, 32-16. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Vous êtes chauffeur routier dans le BTP, vous nous appelez du Nord. Alors, que pensez-vous de ce qui arrive à ce pauvre Jean-Luc Mélenchon?
Moi, je dirais, franchement, l'expression de s'exprimer en France, elle est en très grand danger.
D'accord. Pourquoi? Vous avez des exemples?
C'est simple. Je vais retourner sur les élections. Quand c'est Zemmour qui parlait, on le laissait parler.
Non, à Bruxelles, il a été censuré lui aussi.
Oui, il a été censuré, parce que c'est hors des frontières françaises. Mais en France, dès qu'on dit la vérité, on est censuré. On nous empêche de parler.
Et Mélenchon, il dit la vérité alors?
Il dit la vérité, pour lui, il dit la vérité, peut-être pas pour les autres. Moi, je vais vous dire, Mélenchon, je ne l'ai pas dans mon cœur. Parce que je vous dis franchement, moi, depuis l'âge de mes 18 ans, je vote le RNI. Mais il y a des choses, des partis politiques adverses à mon parti que j'apprécie. Mais moi, je dis, il faut le laisser parler.
Pas de censure.
C'est pas parce que c'est Mélenchon, faut pas mettre de censure. Faut le laisser parler. On est libre de s'exprimer en France.
Christian, il dit attention, danger, il y a la liberté d'expression. Il n'a pas non plus complètement tort. Il y a toujours quand même une petite volonté des autorités, parfois quand même, de trop cadrer, vouloir trop cadrer. Qui est devenue la police.
Oui, mais regardez, il faut faire attention, parce que la liberté d'expression, elle est à sanctuariser, mais elle a des codes et elle a des règles. Quand tu pratiques la liberté d'expression à vocation de racisme ou de xénophobie, sous couvert de langage qui prête implicitement à ça, ou quand tu prêtes des réunions à vocation politique sous couvert d'antisémitisme que tu n'avoues pas. Jusqu'où on va la liberté d'expression ? Est-ce que la liberté d'expression, c'est de dire les sionistes ont le pouvoir en France, d'utiliser le mot sioniste pour dire que c'est Israël qui dirige le pays, etc. Est-ce que ça, c'est de la liberté d'expression ? Est-ce que demain, j'ai le droit de dire que dans les quartiers...
Non, la loi, l'antisémitisme et le racisme.
Sauf que ils ne disent pas clairement. Quand tu incites toute une population de jeunes...
Certains sous-entendent. Soit ils le disent ou ils le disent pas.
D'accord. On va.
Ta position, elle est dangereuse.
Donc ceux qui disent que finalement dans les quartiers populaires, ce sont souvent les gens de couleur ou immigrés arrivés fraîchement qui tuent le plus et qui volent le plus.
Tu vois, c'est des statistiques, Zora.
Voilà.
Pardon. Non, mais voilà. On voit bien, mais dans votre débat, la difficulté à pouvoir établir les choses avec clarté.
Là c'est le bon sujet. Quand on dit qu'il y a une surreprésentation des étrangers parmi les délinquants, tu dis que c'est du racisme. Alors que c'est des statistiques.
Non.
Et donc en fait, à force de dire qu'il y a du racisme partout,
mais quand tu as un quartier où évidemment les populations sont représentées, le prorata il est forcément plus important.
C'est pas un quartier, c'est l'échelle nationale. Gérald Darmanin a donné les chiffres. Lui-même l'a dit.
Mais moi, je pense qu'il
y a des explications aussi d'ailleurs.
Je pense que dans le cadre de la loi, mais quand c'est clairement identifié, il faut maintenir ces réunions, il faut qu'elles existent, il faut les interdictions pour moi ne sont pas bonnes. Le problème, c'est que ceux qui la subissent, en l'espèce M. Mélenchon...
Bah après, il se victimise, en même temps politiquement, il utilise le...
Non, mais là, ça
mais la victimisation, je peux l'entendre en disant, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi on m'interdit, mais c'est l'argument sur laquelle
c'est ça, voilà.
C'est des excès.
Qui, pour moi, décrédibilise même la position qui est la sienne, qui est tout à fait...
On n'a pas envie de le défendre.
On n'a pas envie de le défendre, alors que dans l'idée, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'ARCOM avec sa police d'ici, le préfet qui se mêle, en fait, tout ça sent pas bon. Mais
moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai été choqué que l'ARCOM sanctionne Patrick Cohen. On est d'accord ou pas avec Patrick Cohen dans cet avou? C'est un éditorialiste. Donc le principe d'un éditorialiste, c'est donner son opinion, son avis, peut-être même parfois avec mauvaise foi, ou peut-être même faire des erreurs. Mais c'est, et puis si on n'est pas d'accord, on n'écoute pas.
Voilà.
Et je vois pas pourquoi une instance qui nous explique que tel éditorialiste ne doit pas dire ça, tel nous aussi on a été sanctionnés parce qu'on avait reçu le professeur Perron qui faisait tous les plateaux, qui remettait en cause la politique vaccinale et la politique sanitaire de la France. Et ça nous a été reproché. Moi je trouve qu'il y a une dérive. Je ne comprends pas. En plus, c'est des instances qui sont... ce n'était pas des gens qui sont élus, etc. Donc je pense qu'il faut faire confiance, en fait. Il faut faire confiance à ceux qui font les métiers de journalistes, etc. Il faut faire confiance aux politiques, il faut laisser la liberté d'expression. Et si la loi, effectivement, n'est pas respectée, il faut sanctionner à ce moment-là. S'il y a un vrai trouble à l'ordre public,
bien entendu,
le préfet est là pour faire respecter l'ordre public, mais à un moment donné, il faut laisser un peu plus de liberté.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Toutes les interdictions en amont, qui sont tatillonnes, qui sont là, qui font tous les bureaux d'inspection dans tous les sens, c'est pas bon. Ce qui est dommage dans l'affaire présente, c'était l'occasion vraiment de rappeler l'importance de la liberté d'expression. C'est complètement gâché, parce que vraiment, je le redis avec force, qu'on abandonne ces références qui sont mal utilisées, débiles, à la Seconde Guerre mondiale. Stop,
David. David est avec nous. Bonjour, David.
Faut que ça arrête, quoi.
David, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules.
Bonjour, les GG.
Vous nous appelez d'Auxerre, dans Lyon. Que pensez-vous ? Est-ce que la liberté d'expression est en danger ?
Parfois, mais là, en fait, moi, LFI, j'en peux plus. Alors, je vais être très franc avec vous, parce que vous allez me dire après, je suis pas objectif, mais moi, je suis électeur RN. Si le RN...
Ah ben, décidément.
J'ai vu qu'il y en avait un avant, mais bon, voilà, moi, je préfère être très franc, très clair. Mais si le RN avait dit un dixième de ce que tiennent les Mélenchon et ses sbires...
Ah oui, c'est vrai.
Un dixième des paroles...
Ça est dans le passé, il y a eu.
Et ils ont été... On a appelé au boycott, on a appelé à leur...
Il a été sanctionné.
À leur exclusion. Il y a même Jean-Marie Le Pen qui a été condamné. Et c'est normal. Moi, je n'ai jamais voté pour le père. Mais je veux dire, s'il y avait un espèce d'abruti qui faisait ça au RN, j'espère que Marine Le Pen le dégagerait manu militari. Et moi...
Allô, David.
Ce mec, il sort du champ républicain à longueur de journée. Et c'est de pire en pire. Vous voyez, quand vous voyez le logo là, de la rivière à la mer, on sait très bien qu'ils veulent pas d'Israël. Ils en veulent pas. Le logo, il veut tout dire. Mais en fait, tout est déguisé chez eux. C'est des antisémites. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et déguissant
ils seront condamnés par la loi.
Mais oui, il faut
Et d'ailleurs, je vais vous dire.
Non, c'est pas le fait de l'être qui est condamnable, c'est le fait de l'exprimer. Pardon, oui. tu peux pas sonder les âmes. Tu peux pas sonder les âmes et savoir ce qu'il y a.
Mais l'histoire de la loi, c'est facile. Hein.
Bon. Oui, mais il faut rester sur la loi. Si on commence à dire oui, je te vois, j'ai l'impression que.
Alors à ce moment-là, Marine Le Pen, qui ne tient aucun propos raciste, le RN n'est pas un parti raciste. Ok, allons-y alors. Allons-y, je suis d'accord.
Le RN n'est pas un parti raciste.
Si Mélenchon n'est pas antisémite, Marine Le Pen n'est pas raciste. Ok, alors, non mais d'accord,
tu peux pas faire des procès d'intention aux gens.
Non mais d'accord, ok, on joue à ça, je suis d'accord pour tout le monde.
La question,
eux, ils t'expliquent que le RN, c'est un parti raciste, mais ils sont capables de t'expliquer que Mélenchon et son parti ne sont pas antisémites, parce que comme ils ne l'expriment pas très clairement, et qu'en fait c'est juste ce qu'ils pensent et qu'ils ne le disent pas, et ben ça passe crème. Ben à ce moment-là, le RN, comme le RN et ses dirigeants n'expriment pas très clairement du racisme...
Mais ils ne sont pas racistes.
Non mais admettons, mais voilà. Donc appliquons ce que l'on veut appliquer à Mélenchon à tout le monde.
Allez, discussion. Ouais. Est-ce que c'est une censure? On a une consultation là-dessus. Conférence de Mélenchon censure annulée. Est-ce que c'est la censure? Vous dites oui quand même à 48. Ah, c'est très serré. Oui, 48,8% oui, non 51,2%. Ouais. Ouais, c'est très serré, c'est très partagé.
À mon avis, sa sortie, elle a un peu choqué les gens.
Dans un instant, ce sondage très surprenant, 57% des 18-25 ans sont prêts à s'engager dans l'armée en cas de guerre. Ben, je vous pose la question, et vous, seriez-vous prêts à vous engager si notre pays était menacé, comme ces jeunes, à 57%? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC,
9h30,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Zora Bitant, Antoine Dierce et Frédéric Farah. Et ce sondage assez surprenant, en cas de guerre, 57% des jeunes Français de 18 à 25 ans se disent prêts à s'engager dans l'armée. Et vous ?
RMC, les grandes gueules.
Bah oui ! Selon une étude de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, donc 57% des 18-25 ans n'hésiteraient pas à s'engager dans l'armée pour protéger leur pays en cas de conflit. 62% des jeunes Français sont même favorables à l'instauration du service militaire obligatoire. Qui a dit que nos jeunes n'étaient pas patriotes? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on se posait plus. L'Europe était en paix. Alors il y a eu la guerre bien sûr en Yougoslavie, mais enfin bon, l'Europe était plutôt en paix, notamment depuis la chute du mur de Berlin. On pensait qu'on vivrait tranquillement. Et puis il y a eu l'Ukraine. Mmh. Il y a ces conflits israélo-palestiniens. Bref, et donc forcément
les attaques terroristes qui ont ramené beaucoup de
les
monde.
Attaques terroristes aussi sur notre territoire, c'est une guerre aussi qu'on nous mène de l'intérieur. Et donc ces jeunes Français se disent mais moi je serais prêt à m'engager en cas de guerre. Vous avez été surpris, vous dites bravo, qu'est-ce que tu dis Antoine?
Alors moi je suis
fier.
Mais oui, Antoine, il est content là.
Mais non, attendez, je suis plus que fier.
Toi, t'es réserviste.
Moi, au-delà des paroles,
de la Seconde Guerre mondiale.
Au-delà des paroles, moi, il y a les actes qui vont avec, et ça fait bientôt 2 ans que je suis membre de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Alors, j'ai un devoir de réserve. Je vous parlerai pas de ce qu'on fait, etc. Mais j'ai aujourd'hui passé près de 150 jours sur les 2 dernières années à me former, à être prêt et à être disponible le moment venu si on avait besoin de moi. Et donc, je pense que tous ces jeunes qui aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à le faire doivent savoir qu'on peut déjà le faire aujourd'hui, qu'on peut s'engager dans la réserve opérationnelle et donner ses week-ends, donner ses vacances pour être préparé. Et dans un monde dans lequel on vit, bah, je pense que ma génération n'exclut plus de devoir un jour à son tour prendre les armes. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont connu cette période de paix où on avait l'impression que la paix serait éternelle. Eh bien, ma génération et les jeunes d'aujourd'hui, on sait bien que la paix n'est pas éternelle et que si on veut sauver la paix, il faut être prêt à se battre.
Zora Bitant, surpris par ce sondage?
Non, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que le patriotisme, souvent, on dit que les jeunes ne sont pas patriotes, mais il y a un besoin d'appartenance à la communauté et au collectif, finalement. Parce que c'est ça que ça dit, le patriotisme, ça dit l'appartenance à son pays, et puis l'envie de l'intérêt général et du bien commun. Donc c'est plutôt rassurant, mais c'est marrant parce que du coup, ça, quand on parlait d'autorité tout à l'heure sur Gabriel Attal et ses propositions, on voit bien qu'il y a un décalage entre le désir des jeunes d'autorité liberté et d'ordre qui les sauve et qui permet justement, qui leur permet d'avoir un parcours de réussite, de se projeter. Parce que quand on demande aux jeunes quels sont leurs rêves, vous serez totalement surpris. En fait, ils ont des rêves très simples. Ils veulent un travail, un toit, une maison.
Oui, c'est toujours à peu près les mêmes
rêves. C'est toujours les mêmes rêves. Ça fait 30 ans, 30, 40 ans que je suis avec des jeunes. En 40 ans, ils me disent tous la même chose. Personne ne rêve d'aller sur la Lune. Ils ont des rêves très basiques. Donc, il y a une demande d'autorité et l'État n'est pas au rendez-vous pour répondre à cette autorité à tous les niveaux, c'est-à-dire l'autorité à l'école, l'autorité en périscolaire, l'autorité au foot, etc. Donc ça veut bien dire qu'il faut que l'État, s'il y a des choix budgétaires à faire, ce que je peux comprendre, eh ben, il y a des priorités, peut-être en supprimant une cinquantaine de comités de Théodule, peut-être qu'en réduisant un certain nombre de choses qui ne sont pas très utiles parce que l'éducation est un investissement pour la nation et pour le pays et pour l'avenir du pays, eh ben, on peut couper de l'argent quelque part et puis se dire on va l'investir justement dans ce désir d'ordre et d'autorité et ça n'empêchera pas du tout les jeunes ni de s'épanouir, ni de travailler, ni d'étudier, ni rien, au contraire.
Alors Frédéric Farah, moi je suis même surpris, 62% souhaiteraient le retour du service militaire
mais c'est
obligatoire.
Incroyable.
On a fait une erreur là, en le supprimant.
Mais ça ne fait pas de mal, de toute façon, la rigueur et l'autorité.
Moi, je suis effectivement surpris de ces chiffres. Plusieurs choses dessus. Le patriotisme n'est pas un chauvinisme.
Oui.
C'est vrai. Donc on peut être patriote sans être chauvin.
On peut être patriote sans être nationaliste.
On peut être patriote sans être nationaliste, évidemment. Et on peut se rassurer, puisque la République nous rappelle que la seule communauté qui doit être retenue, c'est la communauté nationale.
Tout à fait.
Et qu'il n'y en a pas d'autre, et que la République reconnaît les individus et pas les communautés. Il n'y a qu'une seule qu'on reconnaît, qui est la communauté nationale. Ça, c'est le fondement de la République. Moi aussi, je suis surpris, parce que là, c'est pas pour faire de la pub pour mon bouquin qui sort, hein.
Mais ça s'appelle comment
Alors, il y a un bouquin qui
c'est bien amené.
Donc, il sort le 15 mai, qui s'appelle No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe. Et j'ai interrogé le public que je connais, c'est-à-dire des lycéens, des gens à l'université, des gens en prépa, etc. Et quand je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils attachent à l'Europe? C'est pas la paix, la démocratie, etc. J'en ai interrogé plus de 460 à cet effet, hein, et ça donne lieu à ce bouquin. C'est ce que tu disais. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment dans l'Europe, c'est ce qui est concret. C'est-à-dire voyager, il n'y a pas de papier, on peut se projeter dans l'avenir en Europe, c'est plutôt un espace
ouvert,
une monnaie que l'on peut palper, qui est commune, parce que qu'on aille d'un pays à un autre, il y a 20 pays qui la partagent. Mais effectivement, c'est pour ça que ça me surprend, parce que j'ai vu personne parmi, alors 400 jeunes, c'est pas 2 millions de jeunes, hein, on est bien d'accord, mais je n'ai pas vu des gens qui étaient dans cette direction, service militaire, implication de ce genre, et qui veulent plus ça. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris de ça, mais on peut concilier les deux. Je crois qu'effectivement, ce qui m'a donné le sentiment, cette jeunesse que j'ai rencontrée, qui est moins politisée, mais qui davantage veut avoir des opportunités.
Comment expliquer ça? C'est quoi? C'est terroriste? C'est de la guerre en Ukraine?
C'est ce que je veux dire. Pardon Zora, c'est pas de la recherche d'autorité. Ils y viennent pas pour trouver un truc pour eux. Ils y viennent parce qu'ils savent que dans le monde dans lequel on est, il va falloir défendre notre liberté. Et donc, tu as raison, ils sont attachés à la liberté. Mais parce qu'on est attaché à cette liberté, on est prêt à la défendre et on veut s'y préparer. Et vraiment, moi, ce que je vois dans la réserve opérationnelle, c'est des hommes, des femmes qui ont décidé que eux seraient prêts au moment où il faudra l'être.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie d'engagement? On voit que l'engagement politique, quand même, est en recul. Il n'y a plus personne dans les partis politiques.
Total.
Il n'y a quasiment plus de militants. Enfin bon.
Même dans les syndicats.
Dans les syndicats, c'est pareil. Hein.
Enfin, quand il y a un besoin d'engagement.
Quand il y a des élections syndicales, personne ne vote. Bon. Alors, il y a un besoin d'engagement aussi dans les, il y a des associations. Il y a des jeunes qui sont engagés, notamment pour l'écologie, etc. Mais je crois qu'il y a un besoin d'engagement dans cette jeunesse. Et c'est aussi une façon de dire, je veux m'engager pour autre chose que ma petite vie.
Mais dans le sondage.
Quelque chose qui est plus grand que moi.
Mais dans le sondage, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que la première cause qui préoccupe les jeunes, c'est quand même le climat, avant le reste. Et ça, c'est quand même important.
Je vois que ceux qui nous écoutent, hein, est-ce que vous seriez prêts à vous engager en cas de guerre? Est-ce que vous faites partie de ces 57% de jeunes Français prêts à s'engager en cas de guerre?
Et 57%, c'est pas
assez. Allez-y, appelez-nous au
3216. C'est vrai.
Et 57%, c'est pas assez. C'est-à-dire que on devrait tous être prêts à s'engager
100%
pour défendre. Mais évidemment.
On devrait être au moins à 80, quoi.
Mais non, mais à 80.
Au moins, normalement.
Pardon, mais en fait, la question se posera même pas.
Il y a des pays où c'est tout le monde.
Pardon, Zora. Même en cas de guerre, tous les hommes en mesure de porter des armes devront se rendre à la caserne la plus proche. Donc c'est,
il se passe en Ukraine.
C'est même pas si t'as envie. Voilà. L'exemple ukrainien, c'est tu n'as pas le choix. Il faut sauver ta vie et sauver ton pays. Donc en fait, on est au-delà des 57% qui seraient prêts à s'engager. C'est tout le monde qui devra
peut-être y aller un jour. Je pense que dans des pays qui sont en guerre depuis 70 ou 80 ans, c'est sûr que la question se pose pas. Nous, on est censé être en paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Ne pas être menacé directement d'invasion d'un pays voisin.
Justement, on s'est endormi. Alors que, mais la Pologne, les États baltes où je vais de temps en temps, vivent depuis des années, non pas en guerre, mais avec l'idée que l'ogre russe est à côté, que l'ours russe est à côté. Et donc, ils sont tous prêts, mentalement, un jour à se défendre. Et nous, on a vécu dans une espèce de cocon, en disant que la guerre était loin, etc. Et donc, on n'est pas prêts
avec les Allemands. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un luxe, la paix, et un luxe qu'il faut
défendre.
La guerre... avant d'en parler, il faut vraiment prendre conscience ce que c'est. Je le dis très tranquillement parce que quand j'étais enfant, j'ai quitté un pays parce qu'il y avait la guerre.
Le Liban.
Liban. Sinon, je ne serais jamais venu en France.
La guerre au Liban a duré combien de temps ?
13 avril 1975 jusqu'en 1990, 89-90, donc une quinzaine d'années qui a fait que plein de Libanais comme moi sont partis. La guerre, j'en ai quelques souvenirs, et c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, qui est extrêmement
important. Il ne faut pas glorifier la guerre.
Non, il ne faut pas la glorifier. Et moi, je sais que ce qui m'a fait aimer la France, c'est ce luxe dont je bénéficie tous les jours depuis tant d'années que je suis ici, qui s'appelle la paix. Et j'ai conscience que c'est un luxe considérable parce que...
Mais c'est peut-être un luxe fragile.
Et c'est un luxe fragile, je le sais. C'est pour ça que toujours que dans le discours politique, quand les gens commencent à parler de guerre civile ou autre, je dis attention, parce que je sais d'où je viens et c'est quelque chose qu'il faut prendre.
Qu'est-ce que c'est une guerre civile ?
Qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile ? Et il faut prendre ça avec beaucoup de précautions parce que c'est pas du tout marrant.
Attends, je voudrais qu'on donne parole à Fred qui est avec nous et qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Fred.
Salut les GG.
Bonjour Fred.
Vous trouvez que 57% finalement c'est assez faible ?
Sur le coup, quand j'ai vu le sondage, j'ai trouvé ça un peu étonnant, ouais, parce que je me dis que si on est français patriote, normalement, on devrait tous se lever, quoi. Peut-être que c'est un peu utopique, enfin peut-être un peu romantique comme façon de voir les choses, mais je me dis, enfin moi, je suis pas guerrier dans l'âme, mais si on devait venir envahir mon pays, j'aurais immédiatement envie de me lever et aller défendre mon pays.
Ça fait 43%.
Ça veut dire qu'il y a un déficit patriotique selon vous?
Je pense. Enfin, après, il y a forcément une partie de la population qui a voté, donc forcément, ils sont d'accord. Mais allez voir un peu ce qui se passe. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas franchement l'attitude patriote, quoi. Ouais. C'est pour ça que dans ma question, je mettais qui a voté. C'est vrai que c'est une vraie question. Je suis sûr que si on faisait un sondage à 100% français, sur tous les Français, on aurait peut-être un score très différent. Je sais pas.
Sur tous les jeunes, surtout.
Oui, jeunes, 57%.
Surtout les 18-25 ans, sur la totalité des 18-25 ans, ce serait intéressant.
Oui, moi,
c'est ça, c'est 57%.
La totalité des 18-25 ans.
Bah, c'est un sondage.
C'est utopique.
On
ne
peut pas interroger tous les 18-25 ans. C'est un sondage, c'est un échantillon.
Un échantillon
représentatif.
Mais je sais bien.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins d'élan patriotique qui a pu y avoir il y a je sais pas, une décennie ou deux, quoi.
Ouais, je sais pas. Bah, par exemple, je vais parler de ma génération. Hein. Je suis pas convaincu que si du temps de ma génération, il y avait 57% des jeunes qui voulaient s'engager.
Olivier,
hein. Moi, j'étais une génération qui a vécu la chute du mur de Berlin. On était plutôt dans l'idée que c'était terminé. La paix serait éternelle. On était tous. C'est le début de la mondialisation. Voilà.
Autour de la table, on vous pose la question.
Après, moi, j'ai fait l'armée. Ouais, je fais partie d'une génération qui a été à l'armée. Voilà, c'est sûr.
Mais tous, attendez, si on vous pose la question demain, est-ce que vous vous battrez pour défendre votre pays, vous répondez nécessairement oui.
Ah bah évidemment.
Ça dépend.
Évidemment.
Attendez.
Oui, bien sûr.
Et donc, ceux qui disent non, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire que
ce sont des ennemis, Antoine. Il faut les mettre dans un internat de redressement.
Je pense que c'est beaucoup. C'est aussi grave que ce que vous décrivez. C'est que quand on n'est pas prêt.
Mais ça serait intéressant de savoir pourquoi les 43% restants n'ont pas voté oui.
Ah, moi,
j'aimerais bien savoir, vraiment. Quoi.
Mais parce que c'est des gens qui n'ont pas envie de faire la guerre, soit par peur,
Mais non, attendez, c'est pas une envie de faire la guerre. Tu dis, ils n'ont pas envie, mais personne n'a envie de faire la guerre.
Il y a des déserteurs, des gens qui... Il y a des gens, à l'époque où le service militaire était obligatoire, il y a des gens qui étaient objecteurs de conscience.
Oui, alors, comment ça se passait? Il y avait une forme de sanction sociale ou pas du
tout? Oui, parce que quand tu étais objecteur de conscience, tu devais faire, je crois, 2 ans de mémoire dans une association, etc. Oui. Tu devais quand même donner de ton temps. Hein,
Voilà. Enfin, l'objecteur de conscience, il est gentil, je respecte son point de vue, mais enfin, s'il y a un vrai conflit, on va y aller à sa place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Exactement.
C'est pas donc, à un moment donné, c'est comme une bagarre dans la rue, je suis désolé, je déteste la bagarre, mais moi, si je me fais agresser, je vais avoir peur, je vais pas avoir envie d'y aller, mais je vais pas rester debout à me prendre des gifles, hein, je vais me défendre, quoi. Donc le schéma, il est le même, quoi. Je pense que même si quelqu'un vient chez vous, vous avez pas envie, ça va être une scène, enfin quelque chose de très de grave, mais vous allez vous défendre comme vous pouvez. Donc c'est presque instinctif, je pense. Enfin j'espère que tout le monde a un minimum d'élan patriote et que le jour où il y aura un conflit, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais si ça devait arriver, j'espère que tout le monde se lèvera et puis qu'on ira défendre le pays, quoi. Enfin,
Vous avez touché le vrai sujet, Fred. Vous avez dit, j'espère que c'est instinctif. Bah oui, c'est instinctif de se défendre, de défendre son pays. Mais cet instinct-là, il a été tué pendant
tout le monde.
Mais voilà, il a été tué par une certaine idéologie, une idéologie pacifiste, une idéologie de ah non, la violence ne résout rien, etc. Sauf que il faut répondre à la violence par la violence pour préserver la paix. Et là, quand je dis ça, j'entends déjà ceux qui me diront ouais, Antoine, t'es un va-t'en-guerre. Pas du tout. Je suis pas va-t'en guerre. Je ne souhaite pas la guerre. En revanche, je dis qu'on est devenu trop faible, qu'on s'est trop affaibli et que cet affaiblissement moral, physique, intellectuel nous rend fragiles face à nos agresseurs.
Moi, je crois juste que les choses reviennent à la normale. On est en train de vivre la fin de l'après-Seconde Guerre mondiale, même première, parce qu'elles sont très proches. Et on a vécu une période de paix, comme ça, très, voilà, sympathique, qui nous a peut-être rendu un peu naïfs, un peu faibles. Et là, on est en train de se prendre une claque parce qu'on se rend compte que le monde, lui, il a continué à vivre avec ses conflits, avec ses problèmes, avec ceci, avec cela. Enfin, on commence bien à sentir que nous, en Europe occidentale, en France, on est un peu, on fait figure d'exception. Je veux dire, quand on regarde le monde, il y a des conflits partout, quoi. Ça n'arrête pas, c'est constant. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que il faut arrêter d'être un peu naïf, faut commencer à être un peu sur nos gardes, faire attention, être un peu plus dur, et puis se rendre compte que le monde n'est pas aussi en paix et pas autant en paix que nous on peut l'être pour l'instant, quoi.
Oui, non mais
dernier mot.
Je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais je ne peux pas m'empêcher, c'est pas parce que je vieillis et je suis nostalgique, c'est vrai que cette période de 89-91 est une période quand même. C'était bon de sentir ça dans l'air. C'est-à-dire la paix s'affirmait, le vieux conflit historique russo-américain s'éteignait. Moi, en tout cas, j'en ai des souvenirs, on est la même génération. J'étais plutôt content que le monde aille dans cette direction, même si les conflits autour continuaient. Et je sais de quel monde je viens. Et j'évoquais dans un podcast tout à l'heure quelqu'un, un membre de ma famille qui a connu un génocide. Donc, je suis pas du tout naïf sur l'état du monde, mais je préfère quand le monde me donne l'impression d'aller vers la paix, même si aujourd'hui, il n'y va pas. Mais c'est vrai que quand, à 19 ans, j'ai vu le mur tomber, j'étais très heureux. Je veux dire, j'en ai un très bon souvenir.
Merci à Louis au 32-16. Et puisqu'on parlait de la guerre, on a appris ce matin qu'Israël avait répliqué après l'attaque de son pays par l'Iran. Israël qui aurait visé un site nucléaire. Alors, on n'a pas énormément d'infos parce que forcément, du côté iranien, on dit qu'il ne s'est quasiment rien passé. Mais quand même, des drones ont été abattus, mais qu'il n'y a pas de dégâts. En tout cas, selon des médias américains, Israël a bien lancé une attaque contre l'Iran et aurait même prévenu Washington qu'elle allait le faire. Alors, est-ce que Israël a eu raison de riposter? Est-ce qu'on n'est pas dans un risque d'escalade? On en parle dans un instant sur RMC, RMC Story. Abonnez-vous bien sûr au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Frédéric Farah, le prof d'éco, Antoine Dias, le consultant, la fonctionnaire Zora Bitan. C'est parti pour le GG7 et match.
RMC.
GG7 et match.
L'Iran a activé cette nuit ses défenses aériennes au-dessus de plusieurs villes de son pays après des explosions entendues près d'Ispahan. C'est la troisième ville la plus peuplée du pays. Visiblement, les Israéliens ont visé un site nucléaire. Des drones ont été abattus. Alors, du côté iranien, on nous explique qu'il n'y a pas de dégâts. Du côté israélien, on ne dit rien. Mais selon les médias américains, effectivement, c'est bien la riposte israélienne qui s'est organisée cette nuit. D'ailleurs, Israël aurait prévenu Washington, qui ne soutenait pas d'ailleurs cette riposte, mais qui ne la condamne pas non plus. Israël a-t-elle eu raison de riposter? C'est la question qu'on pose dans ce GG7 et match. Oui, disent Antoine et Zora. Non, dit Frédéric. Frédéric, comme tu dis non, et tu es tout seul face au reste du monde. Tu as 60 secondes.
Non, pour une raison simple, c'est, je crois qu'effectivement, M. Biden avait raison quand il avait dit à Israël que l'attaque iranienne avait été finalement déjouée, que ça devait tenir lieu de victoire et que ce n'était pas la peine d'aller dans une escalade. Je crois qu'il avait raison dans le sens que il n'y a pas de solution militaire de part et d'autre dans ce conflit, et que aller vers l'escalade régionale et l'embrasement régional n'est pas une bonne chose. D'autant plus que on sait très bien que l'attaque iranienne, tout aussi condamnable soit-elle, avait été organisée pour être sue, connue, pour en réduire l'importance. Alors Israël, est-ce qu'elle ouvre la porte, ce pays ouvre la porte à une escalade de plus grande ampleur, ou bien se contente de faire quelque chose de plus réduit? Je ne crois pas qu'il faille dans ce sens. Je crois qu'il faut choisir les voies de négociation. C'est la seule voie possible. La paix ne viendra pas par les armes dans cette région. On l'a vu mille fois à plein d'occasions de part et d'autre. Donc je crois que c'est une impasse et il faut sortir de penser que en écrasant militairement, supposément, ou en faisant disparaître un État, on va résoudre le problème. Donc, toute solution militaire, pour moi, est une erreur. Voilà.
C'est l'Iran qui a dit qu'il voulait faire disparaître Israël. Hein.
Oui, non, mais
inversons pas les choses.
Non, mais
C'est-à-dire que moi, je pense que face à l'immonde, face à des fous, je parle des dirigeants iraniens, pas du peuple iranien, je fais une différence, mais face à des gens qui te menacent et qui passent à l'acte, parce que l'Iran a attaqué Israël, t'es obligé de riposter. Pour ta défense, pour montrer que tu ne te laisseras pas marcher dessus. Et je trouve que Israël le fait a priori avec beaucoup de modération. Mmh. Et donc je crois aujourd'hui,
c'est une riposte à minima.
Exactement, je crois que c'est une riposte qui vise à montrer
qu'ils
laisseront rien passer. Et mets-toi à la place d'Israël, ce petit État entouré par des États ennemis particulièrement violents dans les mots et dans les actes qui disent qu'ils veulent les détruire. Et donc moi, je pense qu'Israël riposte vraiment avec beaucoup de modération, simplement pour assurer sa survie.
Non, je réponds très rapidement à ça. Alors si on doit se mettre à la place, alors on pourrait dire... On peut se mettre à la place alors des Iraniens qui vont dire « Ah ben alors, ils ont bombardé notre consulat, qu'est-ce que le consulat ? C'est une entité diplomatique, donc comme c'était mon territoire, donc je réponds. » Donc à ce jeu-là, chacun peut amener ses arguments. D'autre part, attention...
Non mais là, c'est l'Iran qui attaque.
Oui, mais on pourrait dire qu'au départ, Israël avait bombardé le consulat en Syrie, qu'eux-mêmes y ripostent, et ainsi de suite. Je ne dis pas que j'approuve ces positions, mais on peut... C'est pour ça que je dis que l'escalade n'a pas de sens. D'autre part, alors là où je t'apporte une nuance par rapport à Israël et ses voisins, je rappelle que dans l'attaque iranienne, ce qui a fonctionné, c'est qu'il y a une alliance qui s'est faite d'ordre militaire avec la Jordanie, le Maroc, Israël, qui a pour but, et les États du Golfe, de donner une série d'informations pour déjouer éventuellement ces attaques-là. Et je rappelle quand même qu'Israël est en paix avec l'Égypte, est en paix avec la Jordanie.
Et en rapprochement avec l'Arabie Saoudite.
En rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Donc, bien sûr, son environnement est difficile, je ne dis pas le contraire. Oui, mais attention, on n'est pas 30 ans en arrière.
Alors, la question, avant d'écouter Jonathan, parce que le match va être court. Donc,
non, mais
court,
je voudrais juste rajouter que l'Iran menace Israël depuis très longtemps. Et que l'Iran, qui est un pays chiite, voudrait effacer Israël pour une raison simple, c'est que les chiites voudraient prendre le leadership de la Oumma musulmane, et donc ils se sont fait la promesse d'effacer Israël et d'en retirer la gloire. Ça, c'est la première chose. Comment Israël aujourd'hui pourrait baisser la garde quand, de toute façon, même si elle décidait de faire la paix, personne ne veut faire la paix avec elle, et que c'est deux...
Elle a fait la paix avec l'Égypte.
Oui, d'accord, mais le terrorisme qui arrive en Israël et qui est constant, il ne faut pas oublier qu'Israël prend des roquettes en continu. Ce n'est pas que le 7 octobre. Le 7 octobre était...
Un groupe financé par l'Iran.
Exactement.
Le Hezbollah, notamment.
Exactement. Donc, Israël est attaqué constamment. Donc, imaginez un instant si Israël baissait la garde et rentrait dans ce...
Donc, il fallait riposter, mais c'est comme une riposte.
Sauf que Israël vient de dire que c'est clos, voilà. C'est clos. Mmh. C'était une riposte proportionnée.
Et on va voir comment l'Iran réagit maintenant, parce que le problème,
c'est l'escalade.
Mais tous les groupes terroristes menacent en continu ce petit pays.
Jonathan, bonjour.
Ah oui, bonjour.
Bienvenue dans les grandes gueules.
Oui, vous, merci.
Ah, moi, ça va. Je vous remercie.
Bon, tant mieux. Alors, est-ce qu'il fallait riposter ?
Oui, absolument, il fallait riposter parce qu'en fait, on ne peut pas laisser un pays nous attaquer comme ça, en fait, attaquer un autre pays comme ça, sans rien dire, sans riposter, en sachant que voilà quoi. C'est... En même temps, ce que je voulais dire, c'est que le Liban est en train de faire la bombe nucléaire. Alors imaginez-vous.
L'Iran.
Il faut savoir que s'ils la font, sans pitié, ils la lanceront, vu qu'ils veulent éradiquer Israël. Ils veulent l'éradiquer.
Et on peut donc même penser qu'ils l'ont déjà, le nucléaire.
D'ailleurs, dans la charte du Hamas, par exemple, c'est ce qui est écrit très explicitement.
Oui, mais la question est de savoir, est-ce que c'est utile de riposter à chaque fois? Et voilà, c'est ça la question.
Moi, je dis que oui, c'est utile de riposter à chaque fois. Et comme je voulais dire, si un
après, c'est une riposte, c'est une riposte contrôlée. C'est-à-dire que si Israël voulait faire beaucoup plus de mal, il pourrait. Là, ils ont visé visiblement un site nucléaire qui est prédisparant. C'est un des sites connus.
Oui, après, il faut savoir que Israël, s'il voudrait vraiment attaquer le Liban comme ils veulent,
L'Iran.
Alors, il faut savoir que s'ils veulent vraiment attaquer comme ils veulent, ils pourraient attaquer.
Donc, je pense quand même que la pression américaine a joué, c'est-à-dire que les Américains ont dit quand même à Netanyahou, calmos, et donc là, il fallait, à mon avis c'était inévitable, il fallait quand même qu'Israël réponde, parce qu'on ne peut pas se laisser attaquer sur son propre territoire sans réponse, sinon on donne l'impression que finalement on est faible. Mais alors maintenant on va voir ce que les autorités iraniennes vont faire. Est-ce que on est quitte, en gros.
Est-ce qu'ils ont les moyens
jusqu'à la prochaine, parce que de toute manière ces deux pays sont en guerre
depuis un moment.
Un moment, jusqu'à la prochaine attaque, prochain dérapage.
Mais si j'ai bien compris, c'était un élément de politique intérieure aussi pour l'Iran. Certains voulaient démontrer qu'ils étaient toujours très engagés, etc. Je maîtrise pas bien la politique intérieure iranienne, mais
il y a sans doute aussi une volonté de montrer aussi à son opinion publique. Voilà. Que
en plus, il y a une opposition entre les mollahs et l'ancien.
C'est les gardiens de la révolution.
Voilà, exactement. Et le peuple qui n'est pas en face du tout avec le régime.
Le peuple, on ne lui demande pas son avis.
Mais il y a une opposition.
Il subit. Et puis,
dans tous les sens du terme.
L'Iran est dans une situation compliquée. Économiquement, ça ne va pas très fort.
Non.
Il y a une contestation à l'intérieur du pays qui est réelle. Et puis, de toutes les façons, l'Iran, militairement, n'a pas non plus un intérêt fou à y aller parce que ses capacités militaires sont réduites.
Alors, résultat du match, Israël a-t-elle eu raison de riposter? On vous consultait quelques minutes sur notre compte X, le compte des grandes gueules. Alors oui, disaient Zora et Antoine, non Frédéric. Qui a remporté ce match? Allez, on envoie les chiffres. Ah, 57% pour le oui, 43% pour le non. C'est assez serré, mais c'est le oui qui l'emporte à 57%. Dans un instant, une idée qui nous vient d'Italie. Instaurer des suspensions courtes du permis de conduire pour renforcer la répression sur les routes, au lieu de supprimer le permis à vie, enfin en tout cas d'être obligé de le repasser, c'est compliqué. Là, ça serait 15 jours, un mois. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer en France? On va en débattre avec vous, bien sûr, au 32-16 et avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.